Ce qu'on vous propose, pour les groupes qui le souhaitent, on va forcer personne, ceux qui le souhaitent, venir présenter votre travail avec l'idée, pas du tout de présenter quelque chose de finalisé, abouti, parfait, etc. Et j'allais dire tant mieux parce que, enfin voilà, le travail d'abord n'est jamais parfait. Et puis en plus, c'est vraiment en discutant des difficultés qu'on a qu'on peut avancer. Donc de présenter ce que vous avez fait, qu'on ouvre un échange du coup autour de votre présentation sur ben voilà les points qui semblent compliqués, qui semblent difficiles, qu'on se questionne sur mais comment on va vraiment mettre ça en œuvre, voilà, et qu'on échange là-dessus. Pendant qu'on fait ça, Sylvie va prendre des notes dans le tableau que je vous ai montré ce matin pour essayer d'identifier un peu où vous vous situez dans les grands domaines qu'on a vus ce matin. Et puis d'identifier aussi pour chaque domaine quelles sont les ressources que vous avez identifiées, que vous mobilisez pour chacun des niveaux.
Alors, comme sans doute beaucoup de groupes, nous on s'est centré sur l'apprentissage, comme vous pouvez le voir derrière moi là, l'apprentissage de cours de la leçon, et donc comment accompagner l'élève dans cette étape-là, quoi. On a essayé d'identifier, de lister les buts de cette formation. Donc il y a différents enjeux, l'enjeu du travail personnel, son externalisation, identifier tout ce qu'implique la consigne à prendre sa leçon, et enfin modéliser un dispositif d'accompagnement que chacun des enseignants pourra s'approprier dans l'apprentissage du cours. Ensuite, on a essayé de penser notre formation en différentes étapes. On en a pensé une première qui se passera en amont, donc à distance, de façon à ce que chacun des participants puisse déjà s'emparer un petit peu de la question avant de venir. Une première étape en présence, donc qui correspond pour nous à l'étape 2, qui permettrait de mettre en évidence que ce problème, c'est un problème de métier qui est partagé, et donc à partir d'une analyse des traces réelles de l'activité au regard de ce qui aurait pu être envoyé via le questionnaire dans l'étape en amont.
Pardon, est-ce que tu peux dire au fur et à mesure quelles sont les ressources que vous avez prévu d'utiliser? Parce que je pense que ça fait partie des choses qu'on va mutualiser, les ressources, que je puisse les noter.
Je suis venu avec ma référente ressource.
Parfait.
Là, l'ingénierie qu'on vous propose, ça paraît très vague. Hein, pour l'instant, c'est sans doute transférable à plein de... Donc voilà.
Alors, vous voulez qu'on précise à chaque fois ce que l'on met derrière l'étape 1 ou l'étape 2? Alors, dans l'étape 1, on a choisi, me semble-t-il, 3 vidéos, non, 4 vidéos qui permettent de rendre compte de 4 manières différentes de transmettre les devoirs à la maison et plus précisément d'apprendre son cours. Donc la première situation. Ce serait transmettre des consignes de devoirs à l'oral à la va-vite en fin de cours. Donc ce sont des vidéos que l'on ferait nous.
Ou qu'on pourrait récupérer sur nos passes.
Voilà. Ensuite, la deuxième situation, l'écriture au tableau à l'avance des devoirs à la maison, mais sans explication. La troisième situation, un petit polycopié transmis et accolé dans le cahier. Et la dernière situation, une présentation des devoirs avec explicitation des procédures à mettre en œuvre, l'objectif du travail d'apprentissage et le temps dédié pour cela dans le cours. Ce serait une transmission qui prendrait un temps spécifique dans la séance de travail.
Donc par l'envoi de ces vidéos, on demanderait à chacun des enseignants, à travers 2 questions, la première ce serait dans quelle vidéo ils se reconnaissent, donc en gros quelle est la démarche qu'ils adoptent, et la seconde ce serait plutôt en quoi la situation qu'ils ont choisie peut leur poser problème, ou quel problème elle soulève. Et donc à partir de ce questionnaire et de ces vidéos, ça nous servirait de base pour entamer la deuxième étape qui est affichée, donc mettre en évidence le problème de métier. Et donc là, lors du dépouillement en gros du questionnaire avec l'ensemble des participants à la formation, le but ce serait de dire, par exemple, tant de professeurs se reconnaissent dans telle vidéo, en étant très descriptif dans un premier temps, hein, oui. Et tant de professeurs ont considéré que le problème posé était celui-ci.
Ah, merci.
Et donc à partir de là, comme on pourrait arriver à presque distinguer des formes de catégories, on pourrait au moins en venir au fait que c'est un problème de métier qui est partagé.
Tu veux ajouter ?
Je ne sais pas si tu l'avais précisé au départ. Nous, en plus, comme dans beaucoup de groupes, on a essayé vraiment de travailler sur de l'interdegré, en se disant vraiment qu'il y a un lien, quelque chose qui peut être pérenne en différents degrés. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu l'avais précisé.
Non, j'ai oublié.
Après ce stade de description pure, donc la deuxième étape qui est en fait l'étape en présentiel, permettrait ensuite, à travers l'analyse donc, de 2 supports différents, un premier support qui serait en fait l'extrait, si vous vous rappelez hier, que nous a transmis Patrick Rayou, de Priscilla, qui essaye d'apprendre sa leçon avec Augustine. Donc chaque groupe serait réparti autour de cet extrait-là, et on leur demanderait à partir d'une grille de travail
Ou de Capco.
Oui, j'ai peut-être fait une erreur. Capco, pardon. Donc, que pensez-vous de l'accompagnement de Priscilla par sa tante? Qu'est-ce que la consigne « apprendre ta leçon » signifie, selon vous, pour Priscilla et pour vous? Qu'est-ce que cette consigne suppose comme activité ou travail, démarche, procédure? Et selon vous, pourquoi l'enseignante a-t-elle demandé d'apprendre la leçon?
Donc, en gros, après avoir dépouillé dans ce premier temps le questionnaire en amont, d'avoir présenté que c'était un problème partagé, il est nécessaire de présenter qu'il y a plusieurs malentendus, en fait, derrière cette question d'apprentissage des leçons, et que ces malentendus, ben, ils incombent à différentes personnes, mais nous, on va surtout se focaliser sur la part de l'enseignant. Donc, c'est pour ça que cet exemple est proposé pour amener déjà à se poser des questions, et surtout faire émerger qu'il y a différentes. Le terme apprendre, ben, il va avoir plusieurs significations, déjà entre l'élève et entre le professeur, mais aussi entre les différents professeurs.
Et qu'il induit donc des...
Un certain nombre de procédures.
De malentendus.
Et de malentendus, pardon. Et ça nous mène à l'étape...
Et un deuxième... Et à la suite de ce travail d'identification des malentendus, on proposerait un deuxième outil de travail qui serait un exemple qu'on n'a pas réussi à retrouver sur les antonymes. Alors peut-être que vous vous en rappelez. C'est Maud. Ce n'est pas une vidéo, c'est vraiment juste le support de travail écrit, où là, en fait, on distribuerait donc ce support-là et on demanderait aux enseignants donc ce que a priori, l'enseignant qui a donné ce travail-là peut attendre que l'élève sache en arrivant en cours le lendemain. Et la deuxième question, quels obstacles pourraient se présenter à l'élève pour qu'il parvienne à apprendre? Et en fait, à partir de ce travail-là, on mettrait en évidence le fait que on peut donner un même devoir, mais on n'attend pas entre les enseignants la même chose, et on n'attend pas que l'élève s'approprie les savoirs de la même manière et pour en faire la même chose. Et c'est à partir de ces différends entre les attendus des enseignants que l'on pourrait travailler un contenu un peu plus théorique sur les malentendus en s'appuyant sur Rayou. Patrick.
Et donc là, ça correspond à notre étape 3, donc la construction d'un dispositif qui accompagne l'élève dans l'apprentissage du cours, donc une présentation d'outils. Là, on aboutit vraiment à la présentation d'outils. L'étape 4.
L'outil, donc on s'est appuyé sur ce que vous avez présenté, les 7 minutes, c'est vous ? Oui. Voilà, les 7 minutes par
cette
cours,
dernière minute de cours,
cette dernière minute de cours, donc qui serait une proposition de travail sur cet outil-là, pour ensuite accompagner les enseignants à expérimenter donc à l'étape 4 un outil qu'ils pourraient réaliser en fin de séance de formation d'étape 3.
On pourrait, lors de cette phase d'expérimentation, les inviter à être filmés pendant que justement ils expérimentent ce dispositif, pour qu'après on puisse, lors de l'étape 5, ramener le réel de leur expérimentation lors de la phase de réflexion collective. Et donc procéder à un retour des expérimentations et puis essayer d'en arriver à l'adoption de pratiques communes partagées par l'ensemble du groupe. Parce que là, l'expérimentation va peut-être pu prendre différentes formes en fonction des enseignants.
On n'a pas précisé, mais la commande qu'on va juste expliquer après s'inscrirait dans un REP+, et donc permettrait de travailler notamment en temps de concertation ensuite en interdegré. Donc l'objectif serait aussi d'harmoniser les pratiques de devoirs à la maison concernant l'apprentissage des leçons au sein du cycle 3.
Donc là, on vous a listé les différents problèmes de départ, donc pour l'institution, pour les enseignants, en précisant surtout que pour nous, il y avait deux difficultés. Donc d'un côté, un prescrit pour le premier degré et des pratiques très disparates dans le second degré. Et donc, qui est forcément source de malentendus, puisque c'est... Un des enjeux, nous, c'est cette liaison interdegré.
La variété du prescrit.
Et en même temps, lever le problème d'une terminologie qui se traduit par quelque chose de complexe, apprendre son cours, sa leçon. Donc voilà, le cadre théorique, on a déjà commencé un petit peu à en parler, à en faire référence. Donc, Patrick Rayou, Kakpo, tu veux...
Après, je pense qu'il peut...
Ouais, après, bon...
Donc, on s'est surtout appuyé sur ce que M. Rayou avait présenté hier... Et on a voulu faire travailler un point de vue de sociologie, issu de la sociologie, et un point de vue issu de la didactique, puisque c'est quand même une formation qui a une visée transformatrice, si on doit reprendre ce que l'on a pu voir les jours précédents. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des constats, mais ensuite de pouvoir accompagner les enseignants dans une réflexion sur leurs propres pratiques.
Juste peut-être en complément, parce que vous en parlez de la Patrick Rayou, on a une rubrique qui s'appelle « Les grands témoins du Centre Alain Savary », dans lesquels on a une vidéo de Patrick Rayou qui est scindée en 4 vidéos de 10 minutes, qui sont vraiment très utilisables en formation, parce qu'il y est hyper simple, hyper clair pour dire les choses, et notamment une des vidéos est sur le travail des élèves. Voilà, donc voilà. Si vous allez sur la page d'accueil à droite, il y a les grands témoins du CAS, vous cliquez dessus, vous tombez sur Patrick Rayou. Ça fait partie des ressources que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que... Ah pardon, excuse-moi.
On en a encore pour 2 heures à peu près. Donc.
Bon, tout va bien.
Bon, on vous présente le cadre institutionnel, bon, pour dire dans quoi on s'inscrit, bien sûr. Les risques et les points de vigilance qui nous semblent importants. Ça a pu surprendre certainement dans le groupe, mais pour nous, il semble essentiel quand même de préciser ce qu'on ne va pas traiter derrière cette thématique d'apprendre les leçons. Et donc, on ne va pas traiter de la didactique des disciplines, on va pas traiter du rôle des parents, on se fixe sur un seul angle, en fait, hein, on ne va pas tout aborder, quoi. Donc, vas-y, tu voulais peut-être le...
Non.
On va traiter donc la didactique des disciplines, l'apprentissage des leçons en classe et hors classe. On ne traitera pas des devoirs à la maison, du contenu d'une leçon, d'une certaine méthodologie d'organisation de la leçon. On ne va pas aborder ces questions-là. Et un des points de vigilance ou des zones à risque un peu de l'information, c'est l'analyse à distance des vidéos. On peut considérer qu'il ne suffit pas de les avoir envoyées pour qu'elles puissent être vues et avoir conduit au fait de compléter le questionnaire. Donc peut-être que ça chamboulera un peu l'organisation du premier temps en présence. Et puis en même temps, l'analyse du corpus et à l'aide de la grille peut ne pas faire émerger ce qu'on souhaite non plus. Donc ça fait partie des points qui sont importants, sur lesquels il faut être vigilant. Dans notre formation, qu'est-ce que les personnes qui participent ont à gagner et à perdre ? Le bénéfice avant tout, c'est sur la commande d'apprentissage d'élèves. En gros, si on arrive à expérimenter quelque chose... Si on pointe le fait qu'ils n'apprennent pas leur leçon ou qu'ils n'y arrivent pas, peut-être qu'on peut avoir un bénéfice dans cette dimension-là. Peut-être qu'ils arrivent un peu mieux à la fin après cette expérimentation à appréhender l'apprentissage de leur leçon.
Enfin, de manière un peu plus précise, c'est si on a déjà réussi à faire comprendre que apprendre ses leçons ou la façon de donner la consigne à apprendre sa leçon, c'est déjà extrêmement, ça induit un certain nombre de complexités et de malentendus. Il y aura déjà un certain nombre de bénéfices à avoir suivi cette formation.
Un gain de précision de la part de l'enseignant dans sa manière d'inviter les élèves à prendre leur leçon. Il va davantage dérouler les procédures qui peuvent être nécessaires.
Oui, et toi, ce que tu voulais dire, parce que c'est la formulation un peu alambiquée de mon camarade sur la commande d'apprentissage, ça voulait dire, eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner ? C'est qu'à la fin, les élèves auront appris, puisque c'était ça l'objectif.
Les pertes qu'on peut penser, c'est un temps d'enseignement de cours disciplinaires un peu plus réduit, parce que si on accorde déjà ces 7 minutes, et si on se met en tant qu'enseignant à se mettre à dérouler les procédures qui sont nécessaires pour apprendre la leçon, forcément que ça risque d'empiéter aussi sur la leçon, dans un premier temps du moins. Et l'autre perte, c'est qu'on ne traitera pas de la question des devoirs dans son ensemble, donc on risque sans doute de générer quelques frustrations malgré tout. Mais on aime la frustration. Les moyens, bon, vous les a listés, bon, c'est... Et ça s'arrêtera là. Merci pour votre écoute.
Important le café et les gâteaux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à réagir, à demander éventuellement des précisions, des choses que vous n'avez pas compris, peut-être des points qui vous semblent peut-être problématiques. Oui.
Juste sur les thématiques, donc le recentrage
Juste sur le recentrage de la thématique abordée, est sur ce qui pourrait, entre guillemets, déborder, c'est-à-dire, vous dites, on ne traitera pas du rôle des parents, comment concrètement vous écartez le sujet ? Est-ce que, dès le début, vous spécifiez le cadre dans lequel il ne faut pas sortir, ou est-ce que vous risquez pas d'avoir en cours de route des questionnements sur ça ? C'est le risque si vous ne le spécifiez pas dès le début, ou le risque effectivement que ces questions soient abordées si vous ne le spécifiez pas ?
Alors, on va vous répondre par une expérience de terrain, puisque cet individu-là est aussi mon acolyte en formation, et nous avions assuré une formation sur l'évaluation par compétences et explicite, et donc d'emblée nous avons dit nous ne traiterons pas de la question de la suppression ou non des notes, ou de la question des notes. Donc le cadre a été donné. Bien évidemment, à un moment donné, quelqu'un a voulu revenir sur ça, mais comme ça avait été spécifié, ça n'a pas eu lieu de revenir. Donc là, ce serait annoncé aussi, effectivement, dès le début.
D'un point de vue pratique, ça peut apparaître dès le dépouillement du questionnaire. Voilà. On a tel prof se reconnaît dans telle vidéo, voilà, et pour finir, on ne va pas traiter de ça.
3 fois 3 heures.
Trois de 3 demi-journées de 3 heures. Donc un temps en amont, 3 heures pour soulever le problème, lever, présenter les malentendus, un temps pour vraiment construire le dispositif et un autre pour un retour après expérimentation.
Moi je peux juste faire une petite un point de vigilance en tout cas par rapport à l'expérimentation que vous proposez sur les 7 dernières minutes, surtout si vous êtes sur un public interdegré. Je pense qu'il va y avoir besoin de temps de reconception de la proposition, notamment pour les collègues du premier degré. Voilà, ça c'est un premier point. Et puis sur...
Je peux ? Oui. C'est ce qu'on avait indiqué justement dans la dernière étape de création des outils et d'appropriation de l'outil proposé. C'était justement que les collègues par groupe puissent justement en proposer un qui corresponde à leur propre pratique.
Voilà, mais c'est, la point de vigilance, c'était par rapport à ce que vous évoquiez sur le dernier temps où vous aviez un peu une idée qu'il fallait adopter des procédures communes sur l'ensemble du cycle 3.
Ah,
ça c'est ce qui conclut.
Ça c'est ce qui va lancer les temps de concertation ensuite. Comment est-ce qu'il est possible ou non d'essayer de se mettre d'accord ou d'harmoniser une pratique concernant les devoirs à la maison au sein du cycle 3.
Mais enfin voilà, le point de vigilance, il est pour moi. Est-ce que notre but en formation, il est forcément d'harmoniser ou est-ce qu'il y a des principes communs à dégager, mais que chacun peut décliner en fonction de son style d'enseignement, en fonction de sa discipline.
C'est
juste un point de vigilance.
C'est ce qu'on voulait dire, on l'a mal dit en fait.
Oui, c'est tout l'enjeu ensuite du temps de travail en interdegré au sein du REPLUS.
Pour avoir fait un certain nombre de formations, notamment avec dans des écoles où il y a quelque part souvent parfois la volonté du directeur de l'école, par exemple, qu'il faut qu'on ait un outil commun ou un fonctionnement commun dans toutes les classes. Je pense qu'il faut qu'on reste vraiment vigilant par rapport à ça, parce que souvent on en arrive du coup à une impossibilité de se mettre d'accord, ou alors à des usines à gaz qu'on abandonne très vite parce que ça ne satisfait pas tout le monde.
C'est exactement la discussion qu'on a eue nous aussi dans le groupe, mais c'est vrai qu'on peut aboutir finalement à ce qu'effectivement certains se soient appropriés l'outil, mais que d'autres soient obligés de l'utiliser sans s'être approprié cet outil.
L'enjeu, ça peut être après d'aboutir par discipline à une réflexion des procédures qu'implique l'apprentissage de la leçon. Ça serait l'étape d'après. Ou qui peut être intégrée dedans. Tout dépend de la constitution des groupes de travail dans nos ateliers.
Ben voilà, mais je pense que vous avez tous en tête des dispositifs où, moi je pense à... je sais pas si vous avez entendu parler là, pour les permis de se conduire ou des choses comme ça, où ça a été des, moi j'ai vu dans des écoles des foires d'empoigne pour arriver à se dire qu'on a tous le même outil et qu'on peut pas l'adapter en fonction de ce qu'on est. Enfin,
l'idée c'était vraiment pas ça. L'idée c'était de pouvoir en fait constituer un élément de réflexion pour les temps de concertation interdegré. Et voilà, après il y a rien de plus prescrit que ça.
Non, mais je pense que ça va mieux en se le disant. Quoi.
Oui, il me semble que ce que vous avez pas dit, mais qu'on a tous perçu quand même, c'est le petit côté humoristique tout au long de la formation, parce que ça apparaît bien quand même dans votre trame, et je pense que c'est important aussi, parce qu'on est sur un sujet quand même qui met tout le monde en tension. Donc ce côté-là, puis le côté un peu cynisme, qu'est-ce que la politique fait là-dedans aussi. Voilà, enfin, c'était juste une petite incise.
C'est le trait de caractère, ça.
Bon, alors on n'a pas présenté sous forme de diaporama, mais voilà, on va vous montrer notre cheminement. Donc on s'est d'abord posé la question, comme vous, j'imagine, c'est quoi le problème. On a listé, donc vous retrouvez toutes les questions qu'on s'est posées, et puis après, on a dégagé une problématique générale pour notre formation, avec au départ deux temps de formation qui nous semblaient importants d'enchaîner dans cet ordre-là, temps information, je ne sais pas si on voit bien peut-être, ouais. Alors, la problématique générale, former les enseignants pour mettre les élèves en situation de réussite dans leur travail personnel. Et temps information, quelle utilité des devoirs? Quel sens on donne aux devoirs et pourquoi on en donne? On est un peu sur cette question-là, déjà du sens que les enseignants vont donner à ces devoirs. Et ensuite, textes, temps 2 de la formation, quels sont les problèmes d'apprentissage des élèves, comment outiller les élèves, alors j'aurais dû compléter, on était sur comment outiller les enseignants pour qu'ils outillent mieux leurs élèves pour apprendre seuls en autonomie. Et prendre comme objet de travail précis pour la réflexion l'apprentissage de la leçon, notamment. Alors, on avait listé c'est quoi le problème pour l'enseignant, pour l'élève, pour les parents. On a un peu mis de côté les parents, mais on verra que ça revient dans nos temps de formation. Et pour vous le présenter, donc nous, on a mis sous forme, je vais vous présenter cette flèche-là, le cas 2, qui est un peu plus détaillé. Donc, sous forme de flèche, avec en rouge les flèches qui sont plus du travail distanciel, et en jaune le temps qui est plus du présentiel. Alors, le distanciel du début, on avait deux cas de figure, on n'était pas d'accord, donc on a essayé de faire un document qui nous permette après d'adapter en fonction de notre terrain, de qui on est, de ce qu'on veut faire. Le distanciel, c'est pour l'instant un questionnaire qui serait envoyé avant la formation, et on s'est inspiré du questionnaire que Stéphane nous a proposé ce matin, qui nous semblait intéressant. Alors, soit on le travaille à distance avant pour que le formateur là puisse s'appuyer là-dessus, aider le premier temps en présentiel, partir des catégories, catégoriser les types de devoirs que les enseignants sur le terrain donnent à leurs élèves, soit certains préféraient plutôt le faire en présentiel et mettre les collègues à travailler en interdegré, par petits groupes, sur quel genre de devoir ils donnent. Voilà, donc on vous a listé les questions, mais qui sont en fait les questions qui étaient très bien faites dans le questionnaire, donc on n'en a pas trouvé forcément d'autres, donc vous les trouverez sur le document. Et puis voilà, donc après ça sera les ressources. En fin de formation, donc on part des catégories, on catégorise un peu les devoirs, on s'inspire aussi des catégories de Guagou pour amener un peu le contenu et mettre de l'ordre dans les différents types de devoirs qui sont donnés, et ensuite on amène la réflexion sur quel sens les enseignants donnent à ces devoirs. Et donc, en fin de formation, on demanderait aux collègues, pendant le temps qui va séparer les deux temps de présentiel, de recueillir dans leur propre pratique des exemples de devoirs qu'ils donnent à leurs élèves. Donc, on se limitait à deux cas de devoirs qu'ils auraient donnés, un cas de devoir qui marche, un cas de devoir qui ne marche pas, où ils ont constaté que les élèves avaient pas fait ou mal fait ou je ne sais quoi, qu'ils photocopient s'ils peuvent au moins la trace dans l'agenda, le cahier de texte, enfin le support sur lequel les devoirs sont notés, qu'ils puissent expliquer à leurs collègues rapidement comment s'était passé le passage de la consigne, et ensuite peut-être qu'ils puissent récupérer le résultat, choisir 2-3 élèves qui leur semblent intéressants, ce que ça a donné, le retour en classe avec les devoirs qui ont été faits bien ou pas comme ils attendaient, pour qu'ensuite au deuxième temps de présentiel on soit sur de l'échange de pratiques à partir de leurs propres matériaux en fait de travail, et on enchaînerait ce deuxième temps de présentiel sur d'abord un exemple que nous on aurait apporté. Alors ça peut être, si on est encore enseignant, du travail que nous on donne et des devoirs, enfin des exemples que nous on a utilisés dans notre propre pratique, ou alors les vidéos, on a des vidéos qu'on a pu trouver sur Neopass ou autre, à partir desquels on pourrait s'appuyer, en analysant ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis après lancer les collègues sur cet échange de pratiques et réfléchir à un moment donné sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore ou qu'est-ce qu'on modifie dans ce qui s'est fait. On table là un peu sur le fait que ça peut donner du coup des idées à chacun et voir ce qui se fait aussi entre, et puis créer des discussions à partir de ces choses-là. Et donc notre problématique aussi, ça sera d'outiller les enseignants pour outiller les élèves, donc là j'ai oublié le mot, en venir à un deuxième temps de la formation sur qu'est-ce qui pose le plus problème aux élèves, comment on peut mieux les outiller, et là aller sur des apports théoriques qu'on était sur repérer dans ce qui va être échangé, sur qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est l'apprentissage de la leçon, enfin sur des choses qu'on a vues là tout au long des 3 jours, le sens que les élèves vont donner aux devoirs, qui leur ont été donnés. Je pense que ça va apparaître. Enfin, on parie que ça va apparaître de toute façon. C'est bien de former les enseignants à quel sens ils donnent aux devoirs, mais comment est-ce que après ils permettent aux élèves d'acquérir ce sens et de le comprendre et de l'intérioriser. Donc, il y aura aussi ce lien-là à faire. Voilà, on est parti aussi sur comprendre les implicites de la culture scolaire, la motivation aussi, qu'est-ce qui motive les élèves, quels sont les types de devoirs aussi les plus motivants et qui vont faire davantage, comment, enfin voilà, il y aura plein de sources, mais c'est aussi des pistes qu'on donne parce que là pour l'instant on se disait qu'on avait aussi tout un travail de lecture à faire avant de donner une formation un peu plus précise là, donc ça reste somme toute assez général. Et puis, nous est venue une idée d'un troisième temps, mais qui n'est pas un temps de formation en soi, mais qui, dans la structure du collège, nous semblerait intéressant, d'autant plus qu'on avait un chef d'établissement avec nous, et que il était intéressant de parler aussi du partenariat avec les parents, les partenaires qui encadrent l'aide aux devoirs. Donc on a imaginé un temps de rencontre plus avec des enseignants, des parents, des gens qui encadrent l'aide aux devoirs à l'extérieur du collège ou même dans le collège, sous la forme d'un café des parents. Et on était parti d'une idée d'un café des parents qui avait eu lieu dans mon collège sur les devoirs justement, où on était parti d'un photolangage. Et pour préparer ce café des parents sur les devoirs, j'avais fait moi un photolangage, le même photolangage mais avec les élèves en classe de 6e. Et ça avait donné des choses super intéressantes. C'est aussi intéressant sur les heures de vie de classe de demander aux élèves ce que c'est que faire leurs devoirs. Je pourrais vous le joindre si vous voulez. J'avais noté des exemples. Hop. Des exemples de paroles d'élèves. Ça marche, oui ? Voilà. À partir des photographies du photolangage qui leur avait été donné. La question c'était qui leur était donnée, c'est pour moi les devoirs c'est. Et je choisis la photo qui représente pour moi ce que c'est que les devoirs. Et après, j'explique à mes camarades, je montre la photo, puis je leur dis pourquoi j'ai choisi cette photo-là. Et donc j'avais catégorisé ce que disaient les élèves ensuite. Quand faire ses devoirs rime avec besoin de calme et tranquillité, donc il y en avait pas mal qui disaient que j'avais besoin de pas de bruit. Celui en dessous, il aimait bien, j'aimais bien ce qui était écrit, ce qu'il avait dit. Il est à fond dedans, c'est un moment de paix et de tranquillité sur son lit. Je suis jaloux de lui parce que quand je suis chez moi, mon frère et ma sœur, ils viennent, ils jouent à la tablette, ils font du bruit. En montrant ce travail-là qui avait été fait avec les parents, on a pu engager aussi la discussion sur le cadre. Comment est-ce qu'on donne un cadre propice au travail? Il y avait pas mal d'élèves qui avaient choisi cette photo de petite fille. Et il y en a qui disaient, les devoirs, c'est pour pas qu'on joue trop, c'est pour nous habituer à quand on sera grand et qu'on aura plein de devoirs, c'est pour exercer des compétences. Il y a aussi, pour moi, les devoirs, c'est comme du temps à l'école, mais à la maison. Des fois, j'aime bien quand c'est sous forme de jeu. Donc, on peut aussi engager des discussions là-dessus, même avec les enseignants d'ailleurs. Quand je rentre, je goûte et j'ai envie d'aller jouer dehors, ça me prend plein de temps, ça me prend une heure ou deux heures, après, je peux pas aller jouer. Donc il y a aussi toute une discussion là-dessus. Et moi, ce qui nous a frappé aussi là, mais moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'était les quand ça rimait faire ses devoirs avec inquiétude, peur de l'avenir, sentiment d'échec aussi. Et c'est vachement fréquent en fait. Et ces paroles-là, elles sont aussi intéressantes, je pense, comme piste de travail aussi, même en équipe pédagogique, hein, pour mieux connaître les élèves. Il y avait un gamin qui avait choisi cette image-là. Pour moi, les devoirs, c'est compliqué, c'est lourd comme les bagages que porte ce monsieur. Un autre qui avait choisi la même photo disait « Il ne faut pas se décourager parce que sinon tu vas devenir sans domicile fixe comme ce monsieur. J'aurai pas de métier, alors il ne faut pas perdre son courage. » Elle avait mis « Si j'y arrive pas, je me sens nulle, il n'y a rien dans mon cerveau. » Et puis, j'aimais bien les zigzags aussi. Des fois, les profs, ils nous donnent des devoirs trop qu'on ne sait pas faire. Et dans notre cerveau, ça fait des zigzags. Je m'embrouille, j'arrive pas à réfléchir et je me demande ce que je ferai plus tard. Ça, moi, je pense que c'est des bonnes pistes aussi pour libérer la parole des élèves et comprendre aussi ce qui leur pose problème dans le travail. Et le photolangage pour ça est intéressant. Voilà, quand faire ses devoirs avec manque de temps, on risque de se faire disputer. Donc là, on peut aborder aussi toute la question des profs qui punissent si les devoirs sont pas faits et de ce sentiment d'injustice. Ça m'arrive des fois de pas y arriver, de me faire crier dessus par le prof. Je trouve ça injuste. Souvent, il y a aussi les parents qui nous crient dessus, qui disent qu'on se concentre pas assez, etc. Donc aborder aussi cette problématique-là de la punition, d'heures de colle, ça se fait aussi. Hein. Il y a des collègues qui mettent des heures de colle si les élèves n'ont pas fait leur travail. On peut l'aborder avec tout le monde, en fait, cette question-là, aussi bien les élèves que les enseignants, que les parents.
Voire même des collèges où dans le carnet, au bout de 3 devoirs non faits marqués dans le carnet, il y a l'heure de colle qui tombe automatiquement. Ouais.
C'est une vraie question parce que là, cette gamine-là, c'était une autre élève. Des fois, on n'a pas le temps. Dans le temps qu'on passe dans ta journée, tu fais plus de travail que tu te reposes. Il n'y a que quand tu dors. Plus de temps à l'école, plus de devoirs que vraiment du repos. Voilà, donc c'était le sentiment. On est tout le temps en train de bosser, en gros, quoi. Voilà. Donc le diaporama, je peux vous le mettre en... Je pense qu'en plus, il n'y a pas de photo de gamin. Mais puis le photolangage, c'est sur Internet qu'on le trouve. Enfin, il y a des trucs de langage.
J'ai fait un dossier spécial avec les ressources que nous a proposées Caroline hier. Donc éventuellement, si tu veux, on le rajoutera dedans.
Voilà, puis les collègues aussi ont proposé, on a fait une liste de ressources qui pourront peut-être vous intéresser, parce qu'on s'est dit, notre problème à nous, c'est on manque de billes sur comment apprendre à apprendre, enfin, sur comment on aide les élèves quand on voit qu'ils bloquent sur l'apprentissage. Donc on a essayé de regarder, on ne les a pas lus, mais on les a listés, voilà, on a de la lecture à faire.
Et sachant que je pense que ce qui a animé un peu... l'organisation de cette formation, c'est un peu les contraintes organisationnelles qu'on a chacun sur nos REP+, les temps interdegrés qui existent, qui sont parfois très éloignés, c'est variable d'un REP+ à un autre, mais on a des rencontres interdegrés qui sont tous les mois et tous les deux mois pour certains réseaux. Et l'objectif, c'était aussi de créer des temps, certes en présentiel, mais créer aussi des espaces qui permettent aussi entre ces deux temps de rencontres interdegrés, pouvoir permettre aux enseignants de s'approprier et de continuer à réfléchir, et pas de manière trop complexe, parce qu'on sait que c'est pas tout le temps faisable, on n'a pas tout le temps de refaire des réunions non plus avec eux, même si c'est par degré, mais leur proposer aussi des pistes ou des questionnements ou par rapport à leur pratique pour pouvoir continuer cette réflexion entre deux temps en présentiel. Voilà, et que ça se fasse sur un laps de temps. En gros, là, il y a trois temps en présentiel, mais c'est quelque chose qui s'étale sur quatre mois, ou voire cinq ou six mois pour certains.
C'est théorique, oui, ça dépendra.
Juste un petit commentaire aussi par rapport à ça. Ça me semble être aussi une piste très intéressante, cette idée de mobiliser la parole des élèves sur les devoirs, et y compris dans des temps partagés où il y a des enseignants et des parents qui se retrouvent à être les... quand ils se rencontrent pas, les parents se sentent les obligés de ce que demandent les enseignants, et puis parfois réciproquement, et qu'ils entendent parfois ensemble ce que ça fait aux enfants, cette espèce de système à distance, ça me semble...
Mais là, pour le coup, le café des parents, c'était sympa, mais ce photolangage, c'était pas suffisant, parce qu'en fait, les parents, ils étaient venus... en attente de recettes. Ouais, mais moi je repars avec. Ouais, mais comment je fais avec mon gamin parce que ça marche pas les devoirs à la maison. Et ça là-dessus, moi, enfin, on l'avait pas anticipé, je l'avais pas prévu. Et je pense qu'il y avait une petite frustration là-dessus. Donc c'est à réfléchir aussi. Alors ça veut dire, on s'est dit bon ben, ça veut dire qu'on doit continuer un travail avec vous, peut-être là-dessus, se revoir, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'ils ont une certaine, clairement ils ont eu une certaine déception pour certains en se disant bon ben, c'est bien beau, on a discuté, mais ouais, moi je repars, j'ai toujours le même problème avec mon gamin à la maison. Donc voilà.
Donc ce serait une formation qui s'adresse à un public de cycle 3, avec environ une dizaine d'enseignants du primaire et une dizaine d'enseignants du secondaire, avec le constat de base que les élèves ne font pas leurs devoirs, et donc avec le problème du temps hors de la classe et les façons d'y remédier, comme un peu tous ici. Donc l'objectif est de faire prendre conscience avant tout aux enseignants que ce qu'ils donnent n'est pas adapté aux élèves, à la fois dans la quantité et dans les types de consignes. Et c'est une formation qui se prend forme sur deux journées pleines, au moins, et avec deux questionnaires donnés en préalable à la première séance, avec un questionnaire pour les élèves sur les habitudes et les modes de travail, avec la question principale qui est « Pourquoi ne faites-vous pas vos devoirs ?» Donc avec les questions qu'on a listées un peu ici, en distinguant selon les différents types de devoirs demandés, avec aussi bien les apprentissages de leçons pures, les exercices, les lectures et les recherches. Éventuellement mener un pré-dépouillement pour isoler les cas les plus intéressants, mais pas forcément, parce que le but est justement de procéder à ce dépouillement en première demi-journée. Et donc, dans un autre temps, sous format Google Form, et non plus papier comme pour les élèves, un questionnaire concernant ce qu'ils donnent comme type de devoir à faire à la maison à leurs élèves, en leur précisant bien que ce questionnaire ne sera pas dépouillé immédiatement, mais le sera bien dans la suite de la formation. En deuxième journée, oui, pardon. La première journée commencerait le matin avec le dépouillement des questionnaires des élèves par groupe de 3 ou 4 par les enseignants eux-mêmes, avec une discussion qui pourrait s'engager à partir de ces questionnaires sur la création de conditions de travail favorables pour les élèves. Éventuellement, parler des facteurs de distraction qui peuvent exister dans les environnements de travail des élèves, et éventuellement voir également s'il est possible pour les élèves de créer des temps et des lieux qui les permettent de s'isoler de leur environnement s'il n'est pas extrêmement favorable à l'apprentissage à l'origine. Donc, après, une fois qu'il y a cela, la mise en commun se fait, non plus en groupe, mais avec le groupe intégralement. Et le but est de remettre en cause les appréciations qui peuvent être éventuellement extrêmement cruelles pour des élèves qui travaillent mais ne savent pas comment travailler. Avec une conclusion de la demi-journée sur les questions de blocage et un apport théorique des neurosciences. Avec l'après-midi, un point plus ludique en amorce sur les stratégies d'apprentissage, à la fois les stratégies un peu plus connues, type visuel, auditif, kinesthésique, et également les stratégies un peu plus complexes. J'ai fait la secrétaire, donc je ne suis pas experte du tout dans ce que je suis en train de raconter. Donc, vraiment essayer de faire un point complet sur les différentes stratégies d'apprentissage possibles pour un élève. Et également, avec la vidéo de Jacques Bernardin, montrer l'importance de l'échange entre élèves sur les différentes stratégies, pour leur permettre de voir quelles sont les stratégies qui marchent pour les autres, éventuellement adapter des stratégies à leurs problématiques, qu'elles fonctionnent déjà un peu ou qu'elles ne fonctionnent pas. Et enfin, pour les enseignants stagiaires, faire un atelier où ils doivent trouver un objet d'étude qui puisse servir d'appui pour eux, pour montrer à leurs élèves les différentes stratégies d'apprentissage et leur permettre de dégager les stratégies qui leur conviennent. Et enfin, donc, finir par une mise en commun des différents outils, par exemple une poésie à apprendre qui permettrait de voir comment les différents élèves apprennent cette poésie et de voir les différentes stratégies qu'il peut exister à partir de ça. Donc l'intercession serait particulièrement mise à profit dans ce cadre-là, donc si possible de mettre en pratique l'utilisation de ces objets et de travailler sur les systèmes d'apprentissage des élèves. Là, la deuxième journée commencerait par un retour d'expérimentation et par une mise en commun, par groupe qui avait travaillé sur les objets d'expérimentation, puis en commun intégralement, et des récapitulatifs proposés. Et enfin, des réactions autour de la vidéo de Guillemette, mais la troisième que l'on n'avait pas vue au cours de cette formation-là, où elle explique la façon dont elle a vu les réactions des élèves et les problèmes qu'elle avait pour poser ses consignes, de façon à ce que les élèves trouvent ce qu'elle voulait leur faire dire, et donc montrer l'importance de lever les implicites, ce qui sera le thème de l'après-midi, qui commencerait par des exercices sur la complexité d'expliquer à quelqu'un quelque chose que l'on ne maîtrise pas mais que l'on nous a expliqué, pour montrer l'importance des implicites dans l'explication et le fait que nous n'avons pas tous les mêmes implicites, puis s'appuyer sur un texte de Stéphane Bonnery sur le texte d'Amidou, pour ceux qui le connaissent, voilà.
Et c'est présent sur le site du Centre Alain Savary dans le parcours de formation sur le décrochage.
et justement pour mettre en avant le fait que les attentes de l'enseignant sont généralement, on porte généralement une très importante part d'implicite, pardon, et éventuellement également clore cette partie-là sur l'importance des verbes mentalistes type comparer, imaginer, etc., et montrer à quel point ils peuvent être perturbants pour les élèves. Et nous n'avions pas fini exactement sur la fin de la formation, mais le but serait d'essayer de mettre en place dans les dispositifs disponibles pour l'aide aux devoirs des communications de telle sorte que les encadrants de l'aide aux devoirs disposent d'une liste d'observables qui permettent une communication plus facile avec les enseignants et ainsi inciter à un repérage commun des difficultés des élèves.
Quand tu parlais de l'apport des neurosciences, tu as allusion à quoi ?
Alors,
pour les neurosciences, on voulait s'appuyer sur tout ce qui concernait la mémorisation, la gestion des distracteurs et faire prendre conscience aux élèves ce qui eux peuvent gérer par eux-mêmes et ce qui peut, quelles sont les techniques qui sont un peu plus favorables à la mémorisation, comme par exemple faire des encarts des mémorisations, tout ce qui est le travail de la mémorisation active. Donc quelques principes de neurosciences concernant la mémorisation en particulier, et peut-être évoquer, mais là on a énormément échangé parce qu'on était et on a eu du mal à cerner le sujet, parce que du coup on se disait, bon voilà, on parle de la motivation, tout ce qui est, si on parle de neurosciences aussi, quel est le rôle des émotions dans l'apprentissage. Donc on a énormément changé et on a eu du mal c'est pour ça qu'on n'a pas fini, à cerner le sujet.
Peut-être une réaction par rapport à cette référence que vous avez faite aux neurosciences, au style cognitif ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est des notions d'abord à manipuler avec précaution, parce que entre la manière dont les neurosciences font des choses en laboratoire et puis comment in situ, dans une situation de vie ou dans une situation de classe ou dans une situation familiale, on fait ses devoirs, il y a un écart et voilà, il y a de la discussion en tout cas scientifique autour de tout ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il est aussi important d'être vigilant sur la différence qu'il y a entre la manière d'aborder ces questions par ces disciplines qui sont plutôt justement centrées sur la mémorisation et la manière de mémoriser, et puis sur ce que c'est que l'apprentissage. Si on est sur de la mémorisation, il y a des moments où on a besoin de mémoriser, c'est pas le problème. Mais l'apprentissage, ça suppose aussi de faire des liens, de faire de l'abstraction, de faire de la synthèse. Enfin, vous voyez, il y a toutes les dimensions et qui en plus vont avoir des colorations spécifiques en fonction des disciplines qui posent des problèmes qui sont bien au-delà de la simple question de la mémorisation. Donc voilà, c'est juste des points de vigilance à avoir par rapport à ça.
Oui, si je juste répondre là sur la mémorisation, l'apport des neurosciences, c'est donner en fait une piste supplémentaire en fait aux collègues sur notamment l'utilisation des fiches mémorisation qui change un petit peu la façon de faire un peu plus habituelle en fait des enseignants quand on fait des bilans de cours, des choses de ce type-là. Voilà, ça apporte une autre façon de dire et aussi développer aussi l'autonomie des élèves, puisque ces fiches de mémorisation, elles sont faites justement pour que les élèves par eux-mêmes construisent ces fiches de mémorisation qui consistent à réviser à partir de questions. En fait, ils se posent des questions sur ce qu'ils ont à retenir du cours et ils peuvent s'auto-interroger quelque part. Voilà, donc c'est une piste supplémentaire, c'est une façon différente peut-être que ce qui est fait habituellement. Voilà. Sans aller trop loin, mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop loin non plus sur ces neuros. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup.
Alors, donc nous, on s'est interrogé donc sur le cycle 3 également. On est parti d'une problématique qu'on a établie de cette manière, parce qu'en fait, il y a déjà eu dans le cadre du REP Plus, on s'est posé dans le cadre du REP Plus, une réflexion, des émergences sur cette problématique. Donc, la problématique qu'on souhaitait poser en formation, c'était au cycle 3, quelles pratiques mettre en place pour créer en classe les conditions d'un apprentissage autonome des leçons hors la classe. voilà, on a, ça nous a demandé pas mal de réflexions, cette problématique, sur bon, pour essayer de se mettre d'accord. Voilà, bon. Donc en fait, cette problématique, elle est née d'un certain nombre de constats, de problèmes. C'est quoi le problème ? Pour les professeurs, des leçons non sues ou mal apprises, une non maîtrise de méthodologie, une non maîtrise de l'apprentissage des leçons, et puis du retard possible engendré dans la programmation des apprentissages. C'est-à-dire que les professeurs constatent que quand les élèves ne savent pas leurs leçons, ben, ça les retarde. Pour les parents aussi, dans le cadre des espaces parents ou des cafés parents, la problématique a pu aussi émerger, notamment sur comment accompagner son enfant, comment savoir ce qui se fait à l'école, et puis quelle place finalement pour la coéducation, si on veut, si on a en tête une visée transformatrice. Et puis aussi pour les élèves. Donc c'est quoi le problème pour les élèves, bah de comprendre pourquoi est-ce qu'il doit apprendre des leçons, comment, et puis ce que viennent de faire les collègues là sur le photolangage, ça nous a bien intéressé aussi, parce qu'on avait envie un petit peu plus loin de le prendre, mais effectivement on pense que ça peut déjà aussi émerger, cette problématique, pour les élèves. Alors, donc, en fait, on s'adresse à un public de cycle 3, un public d'enseignants de cycle 3, qui sont déjà au clair sur cette problématique, comme je viens de l'énoncer, et parce qu'ils partagent ces constats, en fait. Alors, on a le souhait que ce travail soit inséré dans le projet de réseau, dans la partie accompagnement et suivi des élèves. Enfin, nous, on était deux sur Paris-Créteil, Versailles. Bon, il semble que voilà, il y a plusieurs projets de réseau qui ont cette partie accompagnement et suivi des élèves. Donc, on souhaite vraiment que ça fasse partie du projet de réseau pour que ça engage une certaine pérennité du travail et qu'on ne se retrouve pas finalement à abandonner la problématique parce que des personnes partent. Hein. Donc voilà, quels que soient les pilotes, eh bien, on souhaitait que ça reste, donc l'inclure dans le projet de réseau. Alors, le format, on avait pensé, donc dans le cadre des REP+, à 3 demi-journées en présentiel, et ces 3 demi-journées entrecoupées d'inter-sessions qui se déroulent sur des temps, on va dire, d'autres temps institutionnels. Un conseil de... Alors, je sais pas où c'est, ça, peut-être. C'est un peu plus par là.
J'en parlerai après. Sinon,
oui. Alors, attends. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler du temps 1. Et puis, après, on va se répartir. Alors, le temps 1, on partirait donc sur une base environ de 20-25 collègues, pas plus. Donc, ça veut dire qu'on multiplie, si nécessaire, s'il y a besoin, la session de formation. Donc le temps 1, on travaille cette problématique à partir de différents supports sur les points de vue des différents acteurs, et donc qui montrerait différentes pratiques variées. Donc on pourrait partir de certaines vidéos de Néopass. On a juste commencé à regarder, mais on n'a pas du tout finalisé les vidéos. Là, on a regardé un petit peu, mais on n'a pas, voilà. On pensait donc mettre une ou deux vidéos très courtes en relation avec cette problématique-là de l'apprentissage des leçons. On pensait à un récit. C'est vrai que le récit de la claque d'hier, ça nous a bien intéressé. Et puis aussi des témoignages d'élèves ou des témoignages de parents ou des verbatims construits. Donc dans cette première partie, on montre les vidéos et on s'en tient à une description des faits et à une interprétation des faits. Pourquoi est-ce que les acteurs disent ça? Quelle compréhension première on peut avoir de ces faits? Et on commence à formuler des hypothèses relativement à la problématique qu'on a posée. Et ensuite, à partir de ces hypothèses, on peut joindre des apports de la recherche dont on a parlé tout à l'heure, de Monsieur Rayou, de voilà. Et on a l'idée, donc à la fin de cette séance, de faire construire aux collègues des grilles d'observation pour le temps 2, qui seraient des grilles d'observation pour des visites croisées entre pairs. Voilà. Donc, je vais passer la parole à l'intersession 1.
L'idée, c'était de partir sur, à travers ce temps d'intersession, de permettre aux équipes de construire elles-mêmes les faits qui sont en œuvre dans leur pratique quotidienne, et laisser la possibilité aux collègues de choisir ce qu'ils souhaitent faire, mettre en œuvre d'ici la demi-journée suivante. Donc soit des observations croisées, avec comme support de regard les grilles qui auraient été construites dans le temps de formation préalable, soit des observations aussi des élèves faisant leurs devoirs. Alors, dans différents contextes, soit in situ dans l'établissement scolaire, soit dans le cadre des APC lorsqu'on est dans le premier degré, soit dans le cadre de l'accompagnement personnalisé lorsqu'on sera au collège version 2016, soit l'accompagnement éducatif, soit éventuellement aussi extra éducation nationale avec les acteurs socio-éducatifs, toujours avec cette grille d'observation. Ou même laisser la possibilité aux équipes de faire des observations, mais par les personnels de direction, par les IUN, par les CPC, par les éventuels formateurs, voilà, au choix des équipes, pour ensuite entamer le module 2 qu'on vous présente tout de suite.
Donc le module 2, on revient sur ce qui a été observé, et donc il y a tout un panel, soit de... un corpus, des verbatims, des photos, des supports vidéo. Voilà, on prendra un petit peu tout ce qui sera proposé par les collègues. Et puis, on arrivera à l'analyse des différents types de travail personnel donnés aux élèves. Et se poser des questions sur les alternatives, les pratiques possibles. Et puis se poser la question à ce moment-là que sur ce qui aurait été observé. Que gagne l'enseignant, qu'est-ce qu'il y perd, et pour l'élève, la même chose, les mêmes questions au niveau de l'enseignant, au niveau de l'élève. Et de manière à ensuite amener les collègues à se poser les questions sur les différentes composantes de l'étayage et commencer à imaginer l'ébauche d'une charte. L'histoire de la charte là, nous a vraiment intéressé, de manière à boucler la boucle avec aussi un document formalisé ou formel. Qui serait dans le projet d'école, projet de réseau, voilà, aider, qui serait en annexe, en fait. Voilà, et donc c'est sur des temps courts, hein, c'est des demi-journées, donc là, c'est la deuxième demi-journée. Je sais pas si on l'a précisé, mais là, on imagine une année pour tout ce qu'on va vous présenter, et l'idée, ça serait de travailler sur plusieurs années, au moins une deuxième année. Et là, on relance les enseignants à partir de ces grandes lignes de la charte, en tout cas, de pouvoir retourner travailler ensuite avec les équipes, leur équipe. Donc.
Et donc là, deuxième intercession. Donc l'idée, c'est à partir de ce premier travail sur la charte, que de façon collaborative, alors pas forcément avec Google Forms, avec d'autres objets aussi, les collègues puissent élaborer cette pré-charte finalement au sein de leur établissement pour avoir de la matière pour le temps 3 qu'on vous présentera juste après. Et également aussi d'essayer de mettre en œuvre, puisqu'on aura élaboré des pistes, on aura réfléchi sur les observations. Donc mettre en œuvre, essayer dans le cadre de leurs enseignements, et commencer aussi à essayer d'observer les effets, les éventuels effets, des signes de changement, pour après entamer le module 3.
Donc le module 3, même format, on sera sur une demi-journée. Alors, à l'entame de ce module 3, il y aurait déjà un retour sur les mises en œuvre, sur l'intercession. Ça veut dire, qu'est-ce qui a été expérimenté, qu'est-ce qui a été éventuellement éprouvé sur ce temps en intercession, peut-être une focale particulière sur les signes de changement qui ont pu être observés, sur les effets. Qu'est-ce que les enseignants ont commencé peut-être à gagner à opérer certains changements? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? On travaillerait également sur la question des pratiques, en tout cas les effets. Alors là, on partait plutôt sur ce premier point, sur la focale professionnelle, sur les enseignants. Se poser les mêmes questions sur les élèves. Qu'est-ce qui est observé clairement chez eux? Qu'est-ce qu'on peut observer déjà sur leur façon de travailler? Est-ce qu'il y a des choses qui s'observent hors la classe? On avait également parlé du lien avec les familles. toujours garder un peu ce fil conducteur de travailler avec les familles. Qu'est-ce qu'elles, elles observent en dehors de l'école sur la question des devoirs. Donc pour arriver à ce qui pourrait gagner à être soutenu au niveau des pratiques. L'avant-dernier point, c'était, on avait en intercession, il y avait il y avait l'ébauche, en tout cas des grandes lignes de la charte, sur laquelle nécessairement on reviendrait en module 3, pour mutualiser les propositions de charte et arriver à un document, en tout cas une proposition formalisée pour le réseau. Et un dernier point par rapport aux perspectives pour l'année suivante, puisqu'on partait dans une perspective de travail pluriannuelle. Donc, qu'est-ce qui gagnerait à être développé l'année suivante et selon quelle perspective? Alors, on en était resté là pour ce dernier point.
En sachant que l'année suivante, en fait, ce ne sera pas sous forme de formation, mais ce sera plutôt sur des temps institutionnels. C'est-à-dire que ça peut être la problématique reste posée, par exemple, en conseil école-collège, ou en conseil de cycle. Mais on pensait que le conseil école-collège, par le format, est intéressant. C'est-à-dire qu'on repose la question en début d'année, et puis on a toute l'année encore pour expérimenter, continuer sur cette lancée jusqu'en fin d'année, où on va faire le bilan des actions. Voilà.
Merci beaucoup. On enchaîne. Ouais.
Eh bien, nous, on a fait une démarche qui est peut-être un petit peu différente des autres groupes, à savoir déjà la spécificité de notre groupe, c'est que c'est un groupe, je dirais, à défaut d'être international, mais au moins transfrontalier, à savoir qu'on part quand même d'un constat qui est que la prescription en France, c'est date de 56, c'est de ne pas donner de travaux écrits. Et qu'en Suisse, il y a une obligation de donner des travaux, donc comme l'a spécifié Joël déjà hier. Donc nous, qu'est-ce qui pose problème, c'était comment.
Vas-y.
Je continue. Moi, je continue. C'était de comment rendre tous les élèves acteurs et autonomes dans le travail personnel. Ça, c'est plutôt la thématique générale. Et c'était de trouver un objet sur lequel on puisse travailler pendant un module de formation. Donc on a pris comme objet l'étape de multiplication. C'est quand même un problème assez assez épineux, surtout concernant, on va dire, dans le premier degré, fin de cycle 2 maintenant, début de cycle 3. Et un certain nombre de constats qu'on a pu faire de par nos pratiques, c'était que au niveau des élèves, le travail en général, l'étape de multiplication, c'était souvent un travail qui était trop long. Ils se demandaient des fois pourquoi ils avaient à apprendre des multiplications alors qu'ils avaient des outils scolaires comme la calculatrice qui pouvaient tout à fait remplacer ça. Souvent, ils trouvent ça difficile, peu motivant, fatigant et parfois, pour certains d'entre eux, vide de sens. Constat pour les enseignants, il est difficile de faire un travail de mémorisation, surtout dans une typologie d'élèves qui sont situés en REP plus, avec des conditions environnementales qui sont parfois difficiles pour apprendre des leçons, du bruit, des conditions matérielles pas toujours évidentes, une méconnaissance des profils pour les enseignants d'apprentissage des élèves, et puis des institutions des fois un peu coupées de la réalité, où on trouve que le prescriptif n'est pas adapté à la réalité et à la diversité du terrain. Et puis, les difficultés que peuvent éprouver les enseignants pour élaborer des stratégies de mise en œuvre par les élèves pour apprendre leurs leçons. Dans un cadre institutionnel qui en rajoute un peu, à savoir que ce cadre institutionnel impose, et c'est normal dans la prescription, de garantir l'égalité des chances entre tous les élèves. Donc il a d'abord fallu réfléchir sur les outils pour permettre aux stagiaires de s'inscrire dans ce questionnement. Donc, soit par une vidéo qu'on peut trouver en ressources, soit par quelque chose qu'on ferait au sein de notre circonscription, de faire une vidéo d'une séance de classe qui peut débuter en fin de séance par l'écriture des devoirs, prescrite de manière générique, apprendre des tables, et d'observer ensuite le réinvestissement des tables en classe par les élèves, avec soit une nouvelle séquence vidéo, soit des photographies des exercices proposés. Dans un second temps, une autoconfrontation de l'enseignant évoquant les exercices qu'il ou elle va proposer aux élèves, pourrait investir ces tables avec un questionnement sur les liens éventuels que peut faire l'élève avec l'apprentissage de ces tables. Et puis, soit par un verbatim, soit par un retour d'enregistrement audio, de poser des questions à un groupe d'élèves sur le fait de savoir ce qu'ils ont fait à la maison, comment ils l'ont fait, comment cela leur a été utile et comment cela leur a permis... qu'est-ce qui leur a plutôt été utile ? J'évite le tutoiement parce qu'il y a des T. Merci. Hein. Alors, le scénario envisagé. C'est présenter d'abord le thème, nous on a déjà choisi l'objet évidemment, mais c'est de présenter bien sûr le thème de façon générale. Comment rendre tous les élèves acteurs et autonomes dans leur travail personnel ? Et de faire identifier un problème professionnel dans le cadre d'une analyse qui serait faite en groupe d'échange de pratiques. Donc, excuse-moi.
Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à partir des vidéos et des documents qu'on ait récupérés, on fasse quelque chose qui mixte le tout pour faire un montage et que ça soit pas des documents qui soient présentés séparément, mais qui se mettent en relief les uns par rapport aux autres. Voilà.
Donc la consigne avant le visionnage, c'est de faire une description des faits observés et d'observer le comportement du maître, des élèves et du travail qui est donné. Donc le premier visionnage du montage réalisé se ferait à partir des éléments d'observation cités, la séance en classe, l'écriture des devoirs,
voilà, le mix
qui vient d'être décrit, la séance de réinvestissement, les photographies. Et les membres du groupe peuvent demander l'arrêt du visionnage à n'importe quel moment afin de réagir et d'avoir quelque chose d'un peu interactif qui va donner lieu certainement à débat, à nous après effectivement de recentrer les choses et d'apporter éventuellement des éléments de réponse sur des renvois de pratiques, sur ce qu'ils font eux, et de confronter ces pratiques. Ensuite, il y a un deuxième visionnage de la vidéo pour questionner toujours le groupe sur leurs propres pratiques par rapport à ce que nous, on voudrait voir souligner. Bon, il y aura des temps peut-être qui sont des temps d'arrêt, qui sont des temps qui seront à la fois dans les objectifs des formateurs et dans l'objectif des stagiaires. Dans ce cas-là, on traitera de la question, bien entendu, une seule fois. À la suite des problématiques, le visionnage de la vidéo, il s'agit d'entrer dans un travail qui va être un travail de catégorisation, parce qu'à chaque étape, je pense qu'un certain nombre de problèmes vont être soulevés. Et il s'agira de les classifier d'un point de vue matériel, d'un point de vue de la motivation de l'élève, point de vue de la mémorisation, les problèmes que ça pose aussi, surtout par rapport à l'objet table de multiplication, des mobilisations que ça peut demander, et aussi au niveau didactique, d'amener les enseignants à comprendre comment un élève peut arriver à certains raisonnements, et en passant pas forcément où seulement partiellement par la table de multiplication quand il réinvestit. Il n'est pas sûr que l'élève, quand on lui demande de calculer rapidement et d'écrire que 6 fois 9, ça fait 54, il passe pas plutôt par 6 fois 10, ça je sais le faire, c'est facile, ça fait 60. Et si je retranche 6, eh ben ça va faire 54. C'est amener les enseignants à comprendre toutes les différentes stratégies que l'élève peut mettre en œuvre, et pas forcément par rapport aux attentes, eux, qu'ils avaient par rapport aux devoirs donnés. Donc le formateur oriente les questionnements de manière à mettre en évidence la variété des fonctionnements et les incidences que cela peut avoir pour chaque catégorie. Un troisième temps, j'ai oublié de dire que le module, nous, compte tenu des modules de formation, on s'est imposé ça par la pratique, c'était un seul module de 3 heures. Comprendre la manière de résoudre les situations, c'est reprendre cette fois-ci, à la suite des temps d'échange qu'il y a eu, une fois catégorisé toutes les problématiques et également après avoir questionné les enseignants, c'est de reprendre toutes les alternatives qui sont proposées par les enseignants eux-mêmes et les mettre éventuellement en tâche sur des opérations de calcul mental qui leur font encore réfléchir sur les moyens à employer. Alors les apports théoriques, bien sûr, Riccio, la méthode Hermel, et on compte sur Sylvie Martin d'Aneto, comme personne ressource, voilà.
Juste besoin de précision, vous avez dit un module de 3 heures, ça veut dire 3 heures pour le tout?
Je trouve assez intéressant la spécificité de leur présentation, où ils ont vraiment ciblé pour le coup un tout petit objet, mais pour le coup qui est un petit objet derrière, il y a énormément de questions derrière.
On a hésité, on avait deux objets, c'était la table de multiplication et puis éventuellement tout ce qui a trait à la conjugaison aussi, parce qu'on est sur des exercices qui demandent quand même une certaine répétition et qui sont souvent des exercices qui sont problématiques pour l'ensemble des enseignants. Mais c'était peut-être plus explicite de passer quand même par cette table de multiplication qui a en plus, à notre avis, un changement de statut au cours de la scolarité de l'élève. C'est-à-dire qu'au début, c'est quand même un outil dont on se sert, qu'on a sous les yeux et qui va nous étayer. Et peu à peu, la volonté, c'est d'avoir cet outil, de l'intégrer à ses propres connaissances et de ne plus avoir à faire un retour dessus.
Voilà. Puis derrière l'objet, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un objet qui est en lien avec plein de problématiques d'apprentissage sur la construction des nombres, sur les opérations et sur un certain nombre de choses en mathématiques.
Alors, donc l'idée, c'est qu'on reprenait les catégories qu'on avait vues hier par rapport à ce que disait. Ah oui, mais c'est à l'envers, toi. Par rapport à ce que disaient les experts, par rapport à la façon dont les experts posaient les problèmes hier pour la situation de Guillemette. Donc, il y avait créé du lien entre l'école et la famille. On a vu que finalement, il n'y a personne qui a vraiment ciblé là-dessus. Par contre, il y en a un certain nombre qui ont l'intention de l'évoquer dans la formation. En fait, il y a la catégorie « apprendre d'abord à faire en classe ». Donc, cette idée de passer des devoirs au travail personnel, visiblement, ça a été quelque chose de très, très fort, notamment autour d'apprendre une leçon. Donc là, il y a 1, 2, j'essaie de mettre de la couleur, 3 groupes qui, de mon point de vue, sont là-dessus. Finir la séance, noter les devoirs, même chose, c'est quelque chose qui est évoqué mais qui fait pas l'objet de la formation complète. Et puis après, on est sur les contenus des devoirs. Donc là, de mon point de vue, il y a 2 groupes qui sont là-dessus, avec quelle utilité des devoirs, quel sens on leur donne, comment outiller les enseignants pour outiller les élèves. Et puis, les élèves ne font pas leurs devoirs comme on le souhaiterait. Comment est-ce qu'on amène les enseignants à prendre conscience de ce qu'ils font quand ils donnent des devoirs? En termes de ressources, alors j'ai essayé de tout noter, j'ai essayé de noter un certain nombre de liens. Alors quand c'est des liens qui sont simples sur Centralin Savary, Néopass, etc., donc ça c'est quelque chose qu'on pourra finaliser. Reviennent beaucoup les extraits de Séverine Cacpo, de Rayou, qui visiblement sont vraiment des supports pour la formation qui vous semblent importants. Donc ça, on les a de toute façon.
Ils sont déposés dessus. Dans le dossier texte et diaporama de chercheurs.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de... Là aussi, alors c'est une chose à laquelle il faut absolument penser, c'est cette question de la viabilité, c'est-à-dire que quand on se dit, tiens, mais on va faire nous des vidéos, et puis après on va faire un montage, etc., c'est-à-dire ce que Caroline nous a montré très très vite, hein, l'autre jour dans son petit truc, là, puis ça a l'air d'aller tout seul et de se faire tout seul, en fait c'est compliqué, c'est long, il faut avoir des collègues qui soient ressources, etc., donc voilà, c'est une chose, faut savoir qu'on a du temps au départ, quoi, si on veut faire ce genre de choses. Certes, c'est très efficace, mais
c'est aussi coûteux.
Ouais, c'est très coûteux. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, groupe d'échange de pratiques, c'est quelque chose qui revient, donc je l'ai noté. Les questionnaires, le photolangage aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé encore, puis nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Mais pour récolter des verbatims, bah, effectivement, moi, en tout cas, si je retiens une chose, c'est que pour récupérer des verbatims, c'est certainement plus simple, surtout avec des enfants petits, pour discuter autour d'un sujet qui est complexe. Donc le photolangage peut être un média qui semble intéressant. Voilà. Donc ce tableau-là, voilà, on va le remettre au propre et puis on le mettra sur le...
Peut-être que c'est, du coup, dans ce qui apparaît, dans ce que vous avez proposé, c'est peut-être une question comme ça en suspens, mais voilà, la question de quand on envoie des devoirs à la maison se pose la question de comment on les reçoit quand ils reviennent. Et voilà, la question du poids de la correction et de ce qu'on fait des devoirs quand ils reviennent le lendemain ou le jour pour lequel c'est demandé. Voilà, c'est un problème professionnel qui demande.
Mais c'est vrai que ça n'a pas fait l'objet d'une formation, mais par contre, on voit bien que vous êtes nombreux quand même à essayer de le proposer, de le prendre en charge, cette question-là, ou en tout cas, cette envie d'aller interroger les pratiques en regardant le poids de la correction, qu'est-ce que ça fait.
peut-être en guise aussi d'interrogation autour de ça, notre collègue nous demandait voilà, quel était un petit peu quand même l'état des lieux de cette histoire de 1956. Alors, on a été du coup un petit peu recherché là sur le temps de midi. Pour le coup, le truc le plus récent qu'on a trouvé, à part l'abrogation effectivement de cette circulaire dans une circulaire qui ne fait qu'abroger plein de circulaires en 2009, il y a un rapport de l'inspection générale qui a été fait par Vivien Bouys, qui avait été pendant longtemps non publié. C'est un rapport de 2008 qui a été publié en 2012. Donc on vous a mis dans le portfolio texte et rapport officiel. Clairement, c'est pas clair. Est-ce que les devoirs sont toujours écrits, sont toujours interdits aux primaires? Quand on regarde l'état des textes, il n'y a rien de clair. Par contre, on a été jeté un petit œil dans les, voilà, dans les programmes et le socle. Clairement, dans le nouveau socle commun, le domaine 2, hein, le domaine 2, clairement, les choses sont dites que l'apprentissage du travail personnel, c'est bien un objet et un objectif de l'école. Et donc, voilà, on a toute légitimité, je pense, institutionnelle, en termes de prescrits pour justifier le travail sur lequel on a réfléchi pendant 3 jours.
Ouais. Et par rapport à ces nouveaux programmes, une chose dont on n'avait pas pris la mesure, c'est que dans les anciens programmes du collège, en tout cas, dans l'introduction, il y avait clairement marqué qu'il fallait donner des devoirs avec une certaine régularité, que certains devoirs seraient ramassés, donneraient lieu à une évaluation. Alors, c'était pas précisé noté, mais donneraient lieu à une évaluation. Et ça, dans les nouveaux programmes, là, on a fait une recherche. Vraiment, il n'y a plus cycle 2, cycle 3, cycle 4. Clairement, il n'y a pas. Il y a une évocation du travail personnel, mais par contre la question des devoirs à la maison est complètement évacuée.
Et puis peut-être pour conclure, moi je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous, parce que moi j'ai vécu le sentiment pendant ces 3 jours, le sentiment de votre investissement, de votre engagement dans le travail collectif, et c'est pas le cas à toutes les formations, et donc pour nous c'était un vrai bonheur, donc on voulait remercier pour ça. Et puis ce que je disais en deux mots tout à l'heure, pour nous, cette étape, on a parlé pas mal de, pour les formateurs, d'être dans l'accompagnement sur la durée. On souhaiterait aussi nous s'inscrire dans cette démarche-là, et on le fait sur un certain nombre de choses déjà, mais sur ce sujet-là, si vous entamez réellement la mise en place de formation sur ces questions, de réflexion sur ces questions, voilà, on est volontiers preneurs d'échanges, de retours, et les ressources que vous produisez, vous, à votre niveau, on serait très intéressés pour en prendre connaissance et pour pouvoir les proposer dans les ressources que nous, on va éventuellement travailler en lien avec le groupe de travail, notamment à la DGESCO. Mais voilà.